dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Donc je pense que pour le citoyen, c'est une séquence qui a une valeur très importante. Moi, je dis que ce sont des films citoyens, peut-être on dit politique, oui, parce que touche à la politique. Oui. Et j'ai vu un peu dans notre société l'importance que prenait l'immigration et la façon dont elle était présentée, pour moi, d'une façon caricaturale, parfois même avec des renseignements qui ne s'appuient pas sur la source. Maintenant, pendant la campagne des législatives, moi, j'ai besoin de vérifier ces données par le rapport annuel de la CIMAD ou par d'autres rapports. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui était adorable et qui m'a dit il faut y aller, et donc il s'occupait des enfants le soir pendant que moi je reprenais mes cours. Voilà, donc ça a été regarder un peu avec du recul, je me dis que c'est ça qui m'a sauvé, cette chance de pouvoir aller à l'université et de pouvoir donner quelque chose que j'avais à moi, c'est-à-dire ma langue, ma culture, bien qu'elle était très pauvre compte tenu de la dictature dans laquelle j'avais vécu.
Entendre Neus Viala, c'est voyager entre l'Espagne, sa terre natale, et la France, sa terre d'accueil. Cette richesse culturelle lui permet d'avoir un regard original sur les gens, notamment sur les déracinés, qu'ils l'aient été par choix, comme elle, ou par obligation, comme les réfugiés d'aujourd'hui.
Neus Viala est une réalisatrice engagée. Ses documentaires, 12 réalisés en 20 ans, sont les reflets de sa détermination. Elle se lit cette détermination dans ses yeux, elle s'entend dans ses propos. Neus est déterminée à éclairer, à dénoncer, à nous aider à appréhender l'inhumanité de notre époque.
Avant sa venue à Sainte-Afrique le 11 octobre, Dissonance questionne Neus Viala, notamment sur sa dernière trilogie qui explore des parcours d'immigrés, marqués par l'incertitude et l'angoisse, mais aussi par l'espoir et la détermination à vivre, aimer et travailler malgré les obstacles.
Comme le dit Sébastien Nadeau de la Ligue des droits de l'homme, le langage cinématographique de Neus Viala capture les émotions pour expliquer et montrer les luttes de ces personnes, chacune plus attachante que l'autre, tout en mettant en lumière les failles et les contradictions des systèmes en place.
Aujourd'hui, Dissonance nous donne à entendre la voix, les mots d'une réalisatrice engagée, Neus Viala. Neus Viala, sur Dissonance.
Je m'appelle Neus Viala, c'est le nom de mon mari et mon nom de jeune fille, auquel je tiens aussi, c'est Sugrañes. Je suis née à Tarragone et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, pendant le franquisme. J'ai vécu l'exil intérieur, mais m'a beaucoup parlé de l'exil extérieur. Je suis arrivée en France en 1964. Trois ans auparavant, j'avais connu celui qui allait être mon mari. J'habitais à Tarragone et on était encore sous la dictature, c'est-à-dire donc pas de démocratie. Les moindres événements qui sortaient de ce qui était permis par la dictature donc étaient sévèrement réprimés. Et je suis arrivée à Toulouse, donc j'ai découvert la démocratie grâce à mon mari. J'ai fait connaissance aussi des exilés espagnols républicains qui, comme mon père et ma famille, étaient républicains aussi, mais ont vécu le temps du franquisme à Tarragone après la fin de la guerre civile. Quand je suis arrivée à Toulouse, donc, on a formé une famille et on a eu des enfants. Donc moi, j'avais à m'occuper de mes enfants. Donc j'ai eu à m'adapter. J'ai eu la chance d'être lectrice d'espagnol parce que j'en avais fait la demande avant le mariage. Donc j'ai pu avoir une année la relation avec un collège de Toulouse. C'était très agréable comme intégration, d'autant que moi j'étais institutrice en Espagne. J'avais enseigné pendant une année à Tarragone dans une école privée, mais qui était, on peut dire, presque révolutionnaire, parce qu'elle avait toute liberté d'organiser la pédagogie qui était une pédagogie d'avant-garde. Donc je me suis occupée de mes enfants, mais tout de suite j'ai cherché à voir quelle équivalence des diplômes je pouvais avoir pour pouvoir envisager une vie professionnelle en France. Parce qu'avec mon diplôme d'institutrice, je pouvais avoir accès à certains postes qui étaient rattaché au monde de l'éducation, mais je voyais que je n'aurais jamais la rémunération ni le statut qui me revenait par ma formation. Donc mon mari m'a encouragé à m'inscrire à l'université. Trois années pour une licence, ça me paraissait très long, surtout avec l'organisation que ça demandait, donc avec deux enfants. Donc après, je suis rentrée dans l'enseignement comme prof tout de suite. Alors après, comme les enfants ont grandi, qu'ils étaient, donc tout allait très bien, tout était bien mis en place. La profession d'enseignante me laissait des heures libres aussi pour m'occuper d'eux, pour m'organiser pendant les vacances aussi. Donc ça a roulé très bien. Donc ce désir de se former, ce désir de progresser intellectuellement et personnellement, donc m'a amené à continuer les études, après à faire une maîtrise. 10 ans après ce diplôme, donc je me suis lancé dans un travail de thèse de doctorat sur le Pérou, sur des associations d'artisans péruviens qui cherchaient à exporter leur artisanat, mais avec une organisation particulière.
Pourquoi tu passes de l'enseignement à l'École nationale supérieure de l'audiovisuel? Je comprends mieux maintenant, en connaissant ton œuvre en tant que réalisatrice et documentariste, mais à cette époque-là.
Oui, alors, ce qui a précédé à mon entrée à l'école d'audiovisuel, à l'ENSAV, ce qui a précédé, c'est qu'en 1992, j'ai fait, juste après avoir soutenu la thèse, donc j'ai fait un film avec l'université sur la présence des Espagnols ou l'arrivée de Christophe Colomb dans le continent. Je ne sais pas comment. Enfin, j'ai trouvé une autre formulation pour ne pas dire à la conquête. La thèse de doctorat, je ne savais pas si beaucoup de gens allaient la consulter dans des archives. Et alors que si j'arrivais à faire un travail donc en audiovisuel, donc ça serait peut-être plus diffusable. Donc j'étais partie de la thèse et c'était l'exploitation d'un travail scientifique par l'audiovisuel. Donc j'ai eu l'écoute du service audiovisuel de l'université, dont je ne faisais pas partie, qui était intéressé. Et comme il y avait cette manifestation et que j'avais les documents et qu'on pouvait y aller, donc pendant une semaine, donc je leur ai proposé ce voyage en Équateur pour faire un film qui s'appelle « Les voix d'Abby Ayala », qui est le nom Las voces de Abby Ayala, qui est le nom, le premier nom qu'on a trouvé, je ne sais pas de quelle origine d'ailleurs, mais d'une des langues autochtones des pays d'Amérique latine.
Les oiseaux qui voyagent en cage, votre queville, leur amplitude. Ils traînent derrière eux leur paquetage, par moins 100 000 mètres d'altitude. L'horizon est un inconnu à qui ils demanderont asile. Ils espèrent être les bienvenus dans le costume de leur exil. Et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. Les oiseaux qui voyagent en cage chantent dans leur tête des légendes avec de grands chevaux sauvages qui repeuplent les No Man's Land. Ils chantent dans leur tête jusqu'au jour où ils pourront à haute voix annoncer le compte à rebours de l'explosion de leur joie. Et ils portent au fond de leur cœur une poignée de sable du désert. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre. Les oiseaux qui voyagent en cage soulèveront un jour la terre pour faire dépasser les nuages de brume, de feu, de poussière, et qu'il ne reste que le soleil et sa caresse sur leur peau. Ils sentent souvent son odeur en souvenir d'un bord de terre.
Neus Viala,
réalisatrice engagée
sur Dissonance.
Dans ta filmographie, tu fais commencer ta carrière de réalisatrice en 2003 avec Acteur dans la cité, moi aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce film en Amérique latine et ce premier film de 2003?
Bon, il y a eu quelques années où moi je fais des tournages dans les pays qu'on a visités. Donc j'ai eu un matériau qui était très riche. Et donc, je me suis lancée à faire des courts-métrages pour l'enseignement de l'espagnol. Donc, il y a, je ne sais pas, peut-être 15 courts-métrages pour lesquels j'ai fait l'exploitation pédagogique et linguistique de montages. En fait, j'ai eu 3 ans de formation à l'ENSAF. Mmh. Donc, la première année qui m'a permis de vérifier que l'audiovisuel, c'était une voie qui m'apportait à tout point de vue quelque chose d'épanouissement, de communication, de relations et des choses que je portais à moi, même si je m'étais défendue au début de dire j'avais dit, je me rappelle bien que j'avais dit devant témoin, moi l'audiovisuel c'est pas pour parler de moi, mais en fait je réalise, parce que j'avais commencé par la pédagogie, donc c'est normal, mais après je suis allée vers l'école avec Acteurs dans la Cité, ensuite donc...
parentalité aussi.
Oui.
Et puis c'est vrai que tu dis que tu parles de toi, puisqu'on y retrouve, moi j'y retrouve deux grands thèmes qui me parlent beaucoup, c'est l'Espagne et les exilés.
Oui.
Alors l'Espagne, tu as fait 3 films qui sont magnifiques et qui parlent de ce passé républicain que tu portes en toi.
Oui, oui, c'est sûr. Le premier...
Passer la frontière.
Oui, passer la frontière avec les étudiants Erasmus espagnols. Et je voulais savoir ce qu'ils voyaient, eux, du monde hispanique à Toulouse. Et donc, c'était approcher des jeunes qui, comme moi, arrivaient à Toulouse, découvraient Toulouse. Et puis... je me disais, mais ils ont de la chance maintenant, tant d'années après, ils peuvent venir, continuer leurs études, alors que moi j'avais eu beaucoup de mal à avoir des équivalences, et seulement pour continuer des études de lettres après le bac.
Passer la frontière, c'est un film de 2003, la première année où tu étais réalisatrice, et puis après il y a eu J'en garde la trace sur la bataille de l'Ebre en 2004.
Oui, celui-là, c'est mon mari qui m'a encouragée à le faire et même à me proposer le personnage qui traverse le film, François Folk, si attachant, qu'il connaissait, lui, par le travail. Ils n'avaient pas le même âge, mais donc c'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion de rencontrer aux manifestations de commémoration du 14 avril avec l'avènement de la République espagnole. Et ces célébrations, c'était donc à Toulouse. Quand mon mari m'encourageait à faire ce film, c'est parce que mon père était décédé, mais avec mon frère, on avait tous les éléments pour aller sur les lieux de la bataille de l'Ebre. Sans doute, on n'aurait rien retrouvé avec lui, parce que les signalements qu'ils avaient à l'époque, c'était pas les bons, enfin, je sais pas s'il y en avait. Donc, bon, mais... Peut-être il y aurait eu des choses qu'il aurait pu raconter, mais bon. Donc en fait, je dis dans le résumé, effectivement, que c'est François Folk qui a réussi à trouver le moyen de venir avec nous pour le tournage de J'en garde la trace à la bataille de l'Ebre.
Et donc à travers ce film, tu parles de toi, tu parles de ton papa, tu parles de ton passé, tu lui rends hommage, un bel hommage. Et quel est le rapport entre Neus et Manuel Azaña, le film que tu as fait en 2009, Une vie pour la République?
Bon, puis j'allais de temps en temps à l'Institut Cervantes et le bibliothécaire Javier Campillo connaissait mon travail. Et il m'a dit, mais Neus, tu n'aurais pas... envie de faire un documentaire sur Manuel Azaña. Il m'a mis dans mes mains des ouvrages de Manuel Azaña. Et je me suis rendu... Donc, je ne pouvais pas refuser cette gentillesse, cette invitation. Et donc, j'ai pris... Je ne me rappelle pas lequel il m'a mis dans les mains, mais j'ai vu que tout de suite que ça m'intéressait, parce que après, J'en garde la trace... Je m'étais marqué les sujets, les choses que je ne savais pas. Et en lisant le premier bouquin, j'ai dit, mais là, je trouve des réponses à ça. Parce qu'il y a les journaux de Manuel Azaña. Donc, il y a, par exemple, et ça, c'est très important, et ça a été oublié, c'est une injustice envers lui, de la Catalogne envers lui. Il y a la trace de comment et pourquoi il est arrivé à faire voter au Parlement le statut d'autonomie de la Catalogne. Et ça, à peine ils en parlent en Catalogne. C'est donc c'est une injustice envers lui.
Je suis ce que je suis, ni plus ni moins. Souche, terre-mère. Branche fleurie en pays aimé, je resterai. Avec toi, avec lui, avec vous, avec eux et la marmaille. Humanité, hospitalité, éternité, relais passé.
Poème de Neus Viala, 2024. Neus Viala,
réalisatrice engagée
sur Dissonance.
Et puis après, maintenant, moi j'aimerais surtout qu'on consacre du temps à ta superbe trilogie consacrée, et c'est pas anodin, à la vie des exilés, des réfugiés, des migrants, de tous ces gens que l'on voudrait voir invisibles, mais qui pourtant sont là et existent. Donc en 2013, Contre les murs, un documentaire de 52 minutes. 10 ans après, La Spirale, un superbe documentaire sur le centre de rétention de Corne-Barieux. Et puis, tu vas nous parler longuement de ton dernier documentaire, Éclairage, qui lui fait un éclairage sur la loi immigration. Cette loi dont Darmanin a dit qu'elle devait rendre la vie impossible aux exilés.
En 2013, donc, je commence à travailler sur le documentaire Contre les murs. Mais un peu, très, très vite et sans rien avoir prévu à l'avance, je savais qu'il y avait une manifestation qui se faisait au niveau européen, qui était de dire « ouvrez les portes, laissez rentrer la presse, ou laissez-nous rentrer dans les centres de rétention, puisque seuls les parlementaires pouvaient rentrer dans un centre de rétention. » Donc, cette manifestation qui durait 12 jours, et qui était donc européenne, il y avait par demi-journée des équipes qui allaient demander entrée. Ces équipes, des équipes qui étaient formées d'un élu politique, parlementaire, député ou sénateur, de représentants d'associations de défense des droits de l'homme, des immigrés, et de journalistes. Moi, je suis allée en tant que citoyenne et membre du cercle des voisins de Corne-Barieux. Moi, je suis allée le premier jour, j'ai pris la caméra, et je me suis dit, je vais prendre des images pour laisser la trace. J'ai toujours ce souci de dire qu'il faut laisser les choses dans les archives, qu'on ne puisse pas contester plus tard la réalité des faits. Le but de ce film, c'était montrer comment fonctionnait la politique migratoire, tout ce qu'on pointait d'enfermement, de critique, puisque c'était fait par des politiques, donc c'était crédible. Parce que j'ai toujours fait attention d'avoir les personnes qui sont au plus près de la réalité. et dont le propos, comme je connais la réalité aussi, ça fait 10 ans que je fais ou que d'autres personnes proches font au centre de rétention administrative de Courneuvarieux près de Toulouse. Et après, il y a l'autre aspect qui est autant aussi intéressant que le premier, c'est d'aller aux audiences, au tribunal du juge de liberté et de la détention devant lequel passent les personnes retenues au centre de rétention.
Tu reprends le thème de ce centre de rétention de Courneuvarieux, tu l'exploites encore dans ton avant-dernier film, La Spirale, et on voit bien le destin cruel de ces personnes qui sont amenées à être enfermées là pour le seul délit de ne pas avoir de papier.
Oui, oui, effectivement, dans la Spirale, j'ai consacré une partie importante à l'enfermement parce que j'ai eu la chance d'avoir le témoignage des juristes de la CIMAD qui sont à l'intérieur du CRA et qui reçoivent dans leur bureau, c'est leur mission. Ils ont un contrat avec l'État pour ce travail. Ils préparent le dossier que l'avocat prendra pour travailler la défense le lendemain de la rétention, puisqu'il faut qu'il passe devant le juge de liberté dans les 48 heures.
Au centre de rétention, nous, on voit des choses en ce qui concerne, qui touchent directement les enfants, qui sont graves. Alors,
Léo Kloss, juriste à la CIMAD.
On voit des femmes qui sont interpellées à la frontière du Pertus, par exemple à Perpignan, qui sont venues faire des courses dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, qui habitent en Espagne et qui ont confié leur enfant à une voisine pour la journée. Qui sont interpellées et qui peuvent être envoyées dans un pays d'Amérique latine ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et le gamin, il est seul, sans sa mère, il ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Quoi. Il faudra qu'elle attende d'être arrivée là-bas pour prendre contact avec lui. Donc, c'est-à-dire que là, quand on parle des droits des enfants, alors là, du coup, c'est la séparation brutale d'avec la mère. Maman va revenir ce soir. Non, maman, elle ne revient pas ce soir. Elle ne reviendra pas. Elle reviendra, mais peut-être dans de longs mois, si elle arrive à se payer un passeur ou un billet pour revenir. Et en attendant, qu'est-ce que va devenir le gamin? La voisine qui a accepté de le garder dans l'immeuble où elle habite pendant une journée va l'avoir sur les bras et va finir placée. Enfin, voilà. Et c'est pas rare, ce genre de choses, quoi. Donc on est sur des situations avec les enfants où c'est totalement dramatique. Comme je le dis à un moment dans le film, des maîtresses d'école qui nous appellent, ou nous qui les appelons, des directrices d'école pour dire « mais le papa n'est pas venu, vous ne l'auriez pas ?» Si, si, on l'a, ouais. Voilà. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont interpellés en allant des fois devant l'école ou en allant chercher le gamin à l'école, tout ça et tout. Et puis l'administration derrière est totalement... Enfin, moi, ça fait 25 ans hein, que je travaille sur la rétention, donc je me rappelle de l'époque où j'appelais le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne. Je pouvais appeler le responsable du service des étrangers de la Haute-Garonne en disant, attendez, c'était une rétention à 7 jours pour arriver, et en disant, non, mais là, je crois que vous allez déconner, là. Vous rendez compte, vous avez passé un père de famille et tout. Que maintenant, quand je repense à ça, je me dis, mais c'est fini depuis très, très, très longtemps. Aujourd'hui, ils sont totalement décomplexés, ils s'en foutent complètement.
Mais on sait qu'il y a certaines personnes donc, qui ont été mises au centre de rétention qui vont partir la nuit suivante. Donc, ils peuvent être enfermés l'après-midi et le lendemain matin à 6h ou 8h. Partir, donc on ne sait même pas s'ils figurent dans le registre du centre de rétention. Ou parfois ça peut être la politique du nombre aussi qui joue, tout un système qui fait que les statistiques, quand on regarde les statistiques ou celles qu'on met en avant maintenant pendant la campagne des législatives, moi, j'ai besoin de vérifier ces données par le rapport annuel de la CIMAD ou par d'autres rapports.
Dans ce film La Spirale, on entend aussi un témoignage exceptionnel et remarquable de quelqu'un de fabuleux, c'est Sébastien Nadeau, un ancien député.
Oui, bonjour monsieur Nadeau, député de Haute-Garonne, je viens pour effectuer une visite parlementaire de l'établissement.
Sébastien Nadeau, membre de la Ligue internationale des droits de l'homme, ex-député.
Il a été, de mai 2021 à novembre 2021, président de la commission d'enquête parlementaire sur les migrations, les déplacements de population et les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, réfugiés et apatrides.
C'est un lieu angoissant, c'est un lieu d'angoisse.
Interview réalisée par Neus Viala dans le cadre de son film La Spirale. Sébastien Nadeau est enregistré à l'entrée du centre de rétention de Corne-Barieux, tout près de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Les pistes d'atterrissage, le décollage de l'aéroport qui sont juste là. Et ça fait drôlement curieux parce que un aéroport, pour la personne lambda, c'est l'évasion, c'est le tourisme, c'est aller à l'étranger, c'est chouette, etc. Et là, non, c'est tout le contraire. C'est le bruit d'avion, du potentiel, de la potentielle expulsion vers le pays de départ, c'est-à-dire celui qu'on a quitté, parce qu'on ne pouvait plus y vivre. Et il faut arrêter avec les bons motifs, les moyens bons motifs et les mauvais motifs. Quand quelqu'un quitte son pays, c'est jamais de gaieté de cœur. Enfin, il faut quand même que les gens, le petit Français qui est chez lui, comprennent ça. Est-ce que lui, il a envie de quitter l'endroit où il vit? Oui ou non? Est-ce qu'il a envie d'aller à des milliers de kilomètres, sachant pertinemment qu'il va y être mal accueilli, sachant pertinemment qu'il n'aura plus ses proches, sachant pertinemment que la vie va y être aussi difficile? Mais sauf que dans l'endroit d'où partent ces gens, la vie est impossible pour beaucoup d'entre eux. C'est des questions toutes simples, matérielles, on ne peut pas manger. Pour d'autres, c'est des questions de survie parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne communauté dans leur pays, ou parce qu'ils ont une orientation sexuelle ou une orientation religieuse qui ne convient pas, etc. Finalement, on enferme les gens parce qu'on ne sait pas comment passer à un autre système.
Pour la spirale, donc, et j'ai vu un peu dans notre société l'importance que prenait l'immigration et la façon dont elle était présentée, pour moi, d'une façon caricaturale, parfois même avec des renseignements qui ne s'appuient pas sur la source. Par rapport à mon propos, donc les personnes que j'ai sollicitées, c'était des personnes qui étaient au premier rang de la problématique, puisque j'allais développer une problématique qui était celle de l'enfermement des immigrés privés de papier, celle de la justice et celle du vivre ensemble. Il me semblait que c'était trois volets qui étaient complémentaires et qu'il était intéressant de faire reconnaître à mes concitoyens. Parmi ces personnes, il y avait Sébastien Nadeau, qui était président de la commission d'enquête parlementaire sur l'immigration. J'ai été agréablement surprise de voir avec quelle facilité j'ai eu son accord et sa disponibilité pour le tournage à deux reprises dans deux lieux différents et pour deux films différents, a montré que le sujet continuait à l'intéresser, à s'y sentir concerné et qu'il voulait continuer à y travailler sous la forme que j'avais décidé donc un an après de faire avec le film Éclairage.
Sus ciudades, sus hogares y familias, escapando del infierno que les maltrata y exilia. Luchado con la muerte para mantenerse vivo, la ha mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo. La valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones. Podréis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que les sigue va pisando sus talones. El pasado que dejaron, el futuro con que sueñan, son motivos suficientes para jugarse la piel. Desesperación y fuerza, agonía en cada paso. Para vivir de rodillas prefieren morir de pie, porque la valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. sonrisa se me ha clavado en la sien. No tienen miedo a jugarse lo que tienen y a morir en la frontera del Edén. Pa, para, pa, 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 pa. Su guerra sigue y él lucha cual guerrero. Manos desnudas contra tus armas de fuego, oh. Y las palabras que dispara su garganta se clavarán en tu pecho como frío puñal. Y solo espero que te amargue cada noche el duro recuerdo de todos aquellos que ni siquiera pueden contarlo. No, no, yeah.
Viala,
réalisatrice engagée
sur Dissonance.
Et donc justement, puisque tu évoques que Sébastien Nadeau a participé dans La Spirale et dans le dernier film Éclairage, est-ce que tu peux nous en parler de ce film qui est tout récent, qui est tout frais et qui a le mérite de sortir dans une période plus que troublée?
Oui, après La Spirale, il y avait... une partie assez importante à l'enfermement. Donc, je pensais que j'avais traité ce que j'avais à dire et que peut-être ça n'avait pas été dit auparavant, ou tout au moins pas par les mêmes personnes. Et après, je tenais beaucoup à montrer le travail de cette commission d'enquête parlementaire dont avait parlé devant la caméra Sébastien Nadeau. On a vu sur le banc de montage la richesse de son propos en interview et de son propos
à l'Assemblée.
Donc je pense que pour le citoyen, c'est une séquence qui a une valeur très importante. Moi, je dis que ce sont des films citoyens, peut-être on dit politique, touche à la politique, bien sûr.
Et tu reviens sur la loi immigration de décembre 23, janvier 2024, hein, dont peu de gens ont pu établir les conséquences directes du quotidien de ces gens qui sont sous OQTF et pour 3 ans.
Oui, on a vu déjà l'application de nos parties, de cette loi, pas encore de tout, mais on voit qu'elle est appliquée de la façon la plus dure et même dans certains aspects, c'est même avec effet rétroactif par rapport à la durée de l'OQTF qui était avant. Au bout d'un an, la personne pouvait rester, et maintenant, donc, c'est au bout de... l'OQTF, c'est 3 ans, donc qu'elle est interdite. Et donc, maintenant, des gens qui avaient une année se trouvent avec 3.
Oui, c'est une vie impossible. Soit ils partent, soit ils vivent dans la clandestinité. Sébastien Nadeau écrit dans Mediapart que ce film met en lumière les réalités souvent invisibles de ceux qui vivent dans l'ombre des OQTF. Mais aussi, c'est l'autre dimension intéressante du film, il met aussi en avant le parcours de ceux qui se sont intégrés à notre société à l'issue de parcours étonnants. Et j'ai notamment en souvenir cet Afghan qui tient des propos sincères, profonds et remarquables.
C'était très, très difficile à accepter ça, mais c'était nécessaire.
Farhad Salehi.
Je suis arrivé à... J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai traversé beaucoup de pays avec le bus ou le train. Bon, j'ai traversé tous ces pays, mais je ne les ai pas vus. Avec tellement d'angoisse, tellement d'inquiétude, tellement peur, On me demande parfois, je dis que j'ai passé la Grèce, j'ai passé d'autres pays jusqu'à l'arrivée en France. Ah, t'as beaucoup voyagé? Non, j'ai pas voyagé. Dans un voyage, on prend du plaisir, de découvrir. Moi, je voulais pas découvrir. Je voulais ne pas être attrapé, ne pas être arrêté. Il fallait seulement avancer pour arriver où je pourrais avoir une chance d'arriver, d'obtenir ce que je veux, ce que je cherchais, une vie normale.
Oui, là, c'est une très belle rencontre parce que c'est par le biais de l'alphabétisation que mon mari avait entendu parler de lui. Quand je lui ai parlé du film, il m'a dit oui, si ça peut aider d'autres personnes. Et c'était magique.
Et comment tu fais pour faire en sorte que la personne se sente aussi en confiance? Il parle avec beaucoup d'émotion, d'intériorité, comme s'il était tout seul, comme s'il réfléchissait à haute voix. Et pourtant, il y a toi, la caméra, peut-être un éclairage, peut-être un micro. Comment tu fais?
Bien, je dois remercier l'équipe de techniciens parce que on a toujours travaillé ensemble. Donc tout le film, on les a fait avec la même équipe. Et donc le monteur aussi. Donc lui, comme je connaissais un peu qui était sa famille proche, un peu plus autour. Et que j'ai vu comment il réagissait, et il m'a dit, il m'a donné déjà quelques informations, parce que quand je suis allée le voir, il fallait que je lui dise, que je lui parle de l'orientation de mon film et des questions que je souhaitais lui poser. Donc lui, il a eu la facilité, il a eu une facilité réelle de parler de son parcours. Mais après, par rapport à une sincérité ou aller loin dans le propos, bien c'est cette confiance qu'on instaure avant. Et par rapport aux techniciens, c'est aussi la façon dont on met en relation les techniciens avec la personne dont on fait l'interview, dont on les présente. Comment eux, ils ont vite fait de voir la lumière ou d'avoir quelques problèmes dans le cadre qui pourrait être amélioré, les détails ajouter des détails de présents dans le décor. Et après, il y a aussi dans le film un plan avec, dans les jardins familiaux, un plan de fleurs. Plein de fleurs. Et il y a une personne, c'est vraiment, il y a une personne, une spectatrice qui m'a envoyé un mot en me disant qu'est-ce qu'il fait du bien ce plan qui nous apporte la couleur, la ville, au milieu de tant de choses qu'on ne pourrait pas avoir à voir.
Est-ce que la petite Neus, née sous le franquisme, aurait imaginé un jour qu'elle serait réalisatrice et avec des documentaires qui font sens et qui s'ancrent dans le politique d'aujourd'hui et qui défendent ces exilés d'aujourd'hui et de hier et certainement de demain?
Non, parce que pour plusieurs raisons, on ne peut pas toujours savoir comment la vie va être.
Tu es toujours donc dans la transmission, puisque tu transmets ces luttes, ces espoirs des exilés d'aujourd'hui, et tu es aussi dans la présentation de la vérité de ces gens dont on ne parle jamais et qui existent bien. Merci Neus.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver Neus Viala ce vendredi 11 octobre à 20h30 au cinéma Le Familial à Saint-Affrique. Elle viendra présenter le documentaire La Spirale, un film qui soulève des interrogations, questionne nos certitudes, ouvre des débats et dénonce la politique migratoire française actuelle, contraire aux droits de l'homme. Cette soirée est organisée par les associations Les Allumeurs de Réverbères et Tuzolana Accueil.
Neus Viala sera accompagné de Sébastien Nadeau, membre de la Ligue des droits de l'homme, ex-député, qui, de mai 2021 à novembre 2021, a été président de la commission d'enquête parlementaire sur les migrations, les déplacements de population et les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, réfugiés et apatrides. Après le débat avec Lassalle, Eneus et Sébastien, ce dernier nous fera le plaisir d'interpréter quelques-unes de ses chansons, dont sa toute dernière, OQTF.
Dans tous les pays du monde, monde, tu esquives les frontières. Brillant son Calénis, Cerbère, Andaï pas Saint-Tropez. La peur, le froid, le noir, 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 vivre libre est un droit. C'est ce que tu crois, plus moi, c'est ce que tu crois, plus moi. Bafoué, traqué, chassé, cogné, aux ordres du préfet. Puni, raillé, touché, mourir, vive l'ordre policier. Que font ces gens enfermés? Personne ne donne de réponse. Elle ne coûte pas cher ta vie au pays de l'utopie.
Salut
et fraternité.
Exploitation, ménage, nage, nage, poubelle ou livraison. C'est ça ton horizon? Non, non. Placement en rétention. Garde à vue retenue, tout nu, on t'interdit de rêver. Régime autoritaire, terre, terre, loi d'exception bidon. Décision judiciaire, pas fière, bouc émissaire, pas cher. Politique assassin, malsain, anéantissement. Que font ces femmes enfermées? Médias fachos dodo. Elles ne coûtent pas cher ta vie au pays de l'utopie. Dans toutes les villes de France, 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 ton malheur fait carrière. Grillage et barbelé, hors d'âge, étranger sans visage. Interdit les sourires, rire, rire, ton délice est souffrir. Naufrage de dignité, pitié, traumatisé d'état. Partout des caméras, rin, rin, c'est ça la France, je crois pas. Liberté, égalité, truquée, fraternité manquée. Misère, enfant enfermé, et citoyen révolté. Vite reviens, Voltaire, où est le chemin des lumières?